Chapitre 20. Vers la fin de la traversée du désert. Mort de Marie. Et les fils d'Israël, toute l'assemblée, vinrent au désert de Tsin le premier mois, et le peuple habita à Kadès. Et Marie mourut là, et y fut enterrée. Verset 1. Celle dont on avait entendu la voix au milieu des scènes brillantes du chapitre 15 de l'Exode, chantant l'hymne de victoire, disparaît et sa dépouille est déposée dans le désert, à Kadès. Le tambourin est mis de côté. Les chants s'éteignent dans le silence de la mort. Sur les rives de la mer Rouge, Marie avait chanté mélodieusement le cantique de louange. Chantez à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. Exode 15, verset 21. Mais maintenant, la prophétesse disparaît de la scène, la voix de mélodie est changée en voix de murmure. La vie du désert devient fatigante. Les expériences du désert mettent l'homme à l'épreuve, elles dévoilent ce qui est dans le cœur. Les difficultés de notre sentier dans ce monde devraient être pour nous autant d'occasions de faire l'expérience de ce que Dieu est, de le connaître dans toute la douceur et la tendresse d'un amour qui ne varie jamais. Car rien ne peut épuiser les sources de grâce qui sont dans le Dieu vivant. Il demeurera ce qu'il est, en dépit de toutes nos infidélités. Nous avons un encouragement, une vraie joie, et la source de notre force en ceci, que nous avons affaire avec le Dieu vivant. Quoi qu'il arrive, il se montrera à la hauteur de tous les événements, amplement suffisant pour le besoin de chaque instant. Sa grâce patiente supporte nos nombreuses infirmités, nos chutes et nos égarements. Sa force s'accomplit dans notre extrême faiblesse. Sa fidélité ne fait jamais défaut. Sa bonté est d'éternité en éternité. Les amis peuvent tromper ou disparaître, les maris et les Aaron meurent, mais Dieu reste. Si nous avons avec nous le cœur et la main du Dieu vivant, nous n'avons rien à craindre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. La contestation de Mériba. Cependant, il y a, dans le désert, des scènes de douleur et d'épreuves, et nous devons les traverser. C'est ce qui avait lieu pour Israël dans le chapitre que nous lisons. Ils sont appelés à rencontrer les vents âpres du désert, et ils les rencontrent avec des accents d'impatience et de mécontentement. Et il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. Et ils s'attroupèrent contre Moïse et contre Aaron. Et le peuple contesta avec Moïse, et ils parlèrent, disant, « Que n'avons-nous péri quand nos frères périrent devant l'Éternel ? Et pourquoi avez-vous amené la congrégation de l'Éternel dans ce désert pour y mourir, nous et nos bêtes ? Et pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour nous amener dans ce mauvais lieu ? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. On n'y trouve ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et il n'y a pas d'eau pour boire. » Versets 2 à 5. Ce fut un moment profondément pénible pour le cœur de Moïse. Nous ne pouvons pas nous faire une idée de ce que devait être d'affronter 600 000 mécontents, d'être obligé d'écouter leurs plaintes et de se voir chargé de tous les malheurs que leur propre incrédulité avait attirés sur eux. Et Moïse et Aaron vinrent devant la congrégation à l'entrée de la tente d'assignation et tombèrent sur leur face. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. Verset 6. Il est profondément touchant de voir Moïse sans cesse prosterné devant Dieu. C'était un grand soulagement pour lui que d'échapper à une armée tumultueuse en recourant à celui dont les ressources étaient à la hauteur de toutes les circonstances. Ils tombèrent sur leur face, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Ils n'essayèrent pas de répondre au peuple. Ils vinrent de devant la congrégation pour se reposer sur le Dieu vivant. La présence de Dieu était la seule réponse aux demandes d'une pareille assemblée. Et elle était une réponse tout à fait suffisante. Les trésors de Dieu sont inépuisables. Il ne peut jamais faire défaut au cœur qui se confie en lui. Souvenons-nous-en. Dieu aime qu'on use de lui. Il n'est jamais fatigué de pourvoir aux besoins de son peuple. Si ces vérités étaient toujours présentes à nos cœurs, nous entendrions moins d'accents d'impatience et de mécontentement, et plus souvent ceux de la reconnaissance et de la louange. Mais, comme nous avons déjà eu souvent l'occasion de le remarquer, la vie du désert est pour chacun une pierre de touche qui manifeste ce qui est en nous, et qui, Dieu en soit béni, dévoile ce qu'il y a pour nous en lui. Le rocher frappé à tort. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Prends la verge et réunis l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et vous parlerez devant leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. Et tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à leurs bêtes. » Et Moïse prit la verge de devant l'Éternel, comme il lui avait commandé. Et Moïse et Aaron réunirent la congrégation devant le rocher, et il leur dit, « Écoutez, rebelles, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher ?» Et Moïse leva sa main et frappa le rocher de sa verge deux fois, et il en sortit des eaux en abondance, et l'assemblée but et leurs bêtes. Versets 7 à 11. Le rocher est une figure évidente de Christ. En 1 Corinthiens 10, verset 4, nous lisons « Ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était le Christ. » Nous avons ici Christ frappé pour nous. Quant à la verge, remarquons que ce ne devait pas être celle de Moïse, la verge de l'autorité ou de la puissance. Celle-ci ne convenait pas dans cette circonstance. Elle avait fait son œuvre, elle avait frappé le rocher une fois et c'était assez. C'est ce que nous apprend Exode 17, où nous lisons « Et l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël et prends dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et va. Voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb, et tu frapperas le rocher, et il en sortira des eaux, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi devant les yeux des anciens d'Israël. Versets 5 à 6. Nous avons là un type de Christ frappé pour nous par la main de Dieu en jugement. Le lecteur remarquera l'expression « ta verge » avec laquelle tu as frappé le fleuve. Pourquoi cela est-il rappelé en Exode 17? Lorsque Moïse avait frappé le fleuve, toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang. Exode 7, verset 20. La même verge avait dû frapper le rocher afin qu'un fleuve de vie et de rafraîchissement puisse couler en faveur de son peuple. Or, cette action de frapper Christ, le rocher, ne pouvait avoir lieu qu'une seule fois. Elle ne doit jamais être répétée. Mais maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Ainsi, le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, Hébreux 9, versets 26 et 27. Aussi, Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu. 1 Pierre 3, verset 18. Il ne peut pas y avoir de répétition de la mort de Christ. Par conséquent, Moïse eut tort de frapper à nouveau le rocher avec sa verge. Ainsi qu'il lui avait été ordonné, il prit la verge de devant l'Éternel. Verset 9. C'était la verge d'Aaron, la verge du sacrificateur. Mais ensuite, Moïse devait simplement parler au rocher. L'œuvre expiatoire étant accomplie, notre grand souverain sacrificateur est entré dans les cieux afin d'y paraître pour nous devant la face de Dieu. Des eaux de rafraîchissement spirituel coulent d'en haut sur nous en vertu d'une rédemption accomplie et en rapport avec le ministère sacerdotal de Christ, dont la verge bourgeonnante d'Aaron est le type admirable. C'était donc une grave erreur de la part de Moïse de frapper le rocher une seconde fois, et une autre erreur de le frapper avec sa verge à lui. Verset 11. Avec la verge de la sacrificature, celle de la grâce, des paroles auraient suffi. Moïse ne sut pas voir cela, et il ne sut pas glorifier Dieu à la vue de la congrégation. En outre, il parla inconsidérément de ses lèvres, et, en conséquence, il lui fut défendu de traverser le Jourdain. L'Éternel prit soin de sa propre gloire. Il se glorifia lui-même devant le peuple. En effet, malgré les murmures de celui-ci, malgré les fautes de Moïse, Des flots jaillissants sortirent du rocher qui avait été frappé. Non seulement la grâce triompha en donnant à boire aux troupes murmurantes d'Israël, mais, quant à Moïse lui-même, elle éclata de la manière la plus brillante, comme nous pouvons le voir en Deutéronome 34. Ce fut la grâce qui conduisit Moïse sur le sommet du Pisga et lui fit voir de là le pays de Canaan. Il valait mieux voir la terre de Canaan dans la compagnie de Dieu que d'y entrer dans la compagnie d'Israël. Cependant, nous ne devons pas oublier que Moïse ne put pas entrer dans le pays parce qu'il avait parlé d'une manière irréfléchie. Verset 10. Agissant en gouvernement, Dieu tint Moïse en dehors de Canaan. Agissant en grâce, il l'amena sur le sommet du Pisga. Ces deux faits illustrent la différence qui existe entre la grâce et le gouvernement. La grâce pardonne et bénit, mais le gouvernement suit son cours. Ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Galates 6, verset 7. Ce principe se retrouve dans toutes les voies de Dieu. Des messages au roi d'Édom. Dans les versets 14 à 20 de ce chapitre, nous avons les propos échangés entre Moïse et le roi d'Édom. Il est intéressant d'observer le ton de chacun d'eux et de le comparer avec le récit donné en Genèse 32 et 33. Ésaü, ou Édom, avait une sérieuse rancune contre Jacob, mais Dieu ne lui avait pas permis de toucher à un cheveu de la tête de son frère. D'un autre côté, Israël, successeur de Jacob, ne devait pas inquiéter Édom dans ses possessions. Commande au peuple disant « Vous allez passer par les confins de vos frères, les fils d'Ésaü, qui habitent en Séhir, et ils auront peur de vous, et soyez bien sur vos gardes. Vous n'engagerez pas de lutte avec eux, car je ne vous donnerai rien de leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied, car j'ai donné la montagne de Séhir en possession à Ésaü. Vous achèterez d'eux la nourriture à prix d'argent, et vous la mangerez, et l'eau aussi. Vous l'achèterez d'eux à prix d'argent, et vous la boirez. » Deutéronome 2, versets 4 à 6. Mort d'Aaron. Le dernier paragraphe du chapitre 20 est fort émouvant. Le lecteur fera bien de le mettre en regard de la scène décrite en Exode 4, versets 1 à 17. Moïse avait jugé que la compagnie d'Aaron lui était indispensable, mais il la trouva par la suite comme une épine douloureuse à son côté. Puis, finalement, il est obligé de le faire dépouiller de ses vêtements et de le voir recueilli auprès de ses pères. Tout ceci est très instructif, sous quelque aspect que nous le considérions, soit pour ce qui concerne Moïse, soit pour ce qui concerne Aaron.